Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, je crois que nous pouvons reprendre la suite de cette comparaison, puisque pour achever l'acte 2, on a un phénomène inverse de celui que j'ai décrit jusqu'à maintenant, puisque dans ce que nous avons vu et suivi jusqu'à maintenant, il s'agissait de ce qui était une série d'épisodes étirés dans la temporalité, distribués entre différentes voies chez Cervantes, devenait condensé dans un seul monologue et dans une immédiateté de la succession, de l'enchaînement des faits. À l'inverse, les dernières scènes de cet acte 2 montrent ce qui était dans Cervantes rassemblé dans un seul texte, c'est-à-dire la lettre que Lucinda envoie à Cardenio pour le prévenir du malheur qui les menace, c'est-à-dire le fait que Fernando, trahissant sa promesse, a demandé sa main à elle, à son père, et que celui-ci la lui a accordé. Cet élément qui était dans cette lettre devient multiplié dans différents dialogues ou monologues sur le théâtre. Les événements condensés en quelques lignes donnent la matière de plusieurs scènes. Une est visiblement l'auteur de la pièce ou les auteurs de la pièce avaient construit avec Enriquez un personnage qui les séduisait pour cette tension, c'est-à-dire un autre monologue d'Enriquez et qui commence comme sa propre mise en accusation d'avoir forcé brutalement Lucinda par sa reconnaissance de sa double falsehood, et c'est là où apparaît le titre, la double trahison, la double traîtrise. Il est traître par rapport à Violante, il se qualifie lui-même de perjured wretch, un scélérat parjure, et il est aussi traître par rapport à son ami Julio, et par rapport à lui il est perfidious, perfidie ou un perfide. Donc il y a là une même structure, puisque après s'être ainsi exposé comme dans sa double trahison, il en revient aux excuses possibles pour un tel comportement, c'est-à-dire le fait que rien ne peut brider la passion amoureuse. On pourrait d'ailleurs trouver dans cette alternative, les lignes sont le plaisir est trop fort pour pouvoir dompter la raison, et la conscience coule devant ou s'effondre devant les douceurs de la beauté. On pourrait trouver d'ailleurs dans cette articulation entre chaque fois une mise en accusation par lui-même d'Enriquez pour des faits particuliers, et d'autre part une sorte de justification de sa conduite par des vérités universelles. Le désir est plus fort que la raison, tout homme peut prendre le risque d'être coupable pour poursuivre sa félicité. Une sorte de modulation du XVIIIe siècle, ou peut-être même donc du début du XVIIe siècle, sur un élément qui était un élément fondamental dans la construction dramatique des textes fin XVIe, début XVIIe, c'est-à-dire cette permanente tension, liée d'ailleurs à la technique des lieux communs, entre les circonstances spécifiques de chaque histoire et les vérités universelles des lieux communs au sens de la Renaissance, c'est-à-dire de ce qui sont des énoncés qui valident indépendamment des temps et des lieux. Et on peut montrer chez Shakespeare ou chez Marlowe que cette utilisation systématique, soit parce que la circonstance présente est un cas d'une vérité universelle, soit parce qu'à partir d'une expérience circonstanciée, le personnage énonce une sentence universelle. On trouverait d'ailleurs le même type de structure chez Corneille. Alors là, on aurait une modalité de cette relation entre ce que la rhétorique ancienne appelait la thèse et l'antithèse. La thèse, vérité universelle, et la circonstance particulière. Ici, on l'aurait évidemment, puisque les vérités universelles sont toujours mises en avant comme un élément de justification de ce qui est dénoncé dans les circonstances particulières. Et la tension psychologique de Henriquez entre la mauvaise foi et la bonne conscience, en fait, a une traduction qui est une traduction rhétorique dans cette multiple articulation entre les temps où il s'accuse lui-même de circonstances condamnables et, d'autre part, le recours permanent à des sententiae, des vérités universelles, des énoncés qui ont validité générale pour, en quelque sorte, justifier sa conduite. Il n'y a rien de cela dans le Fernando de Cervantes. Et ensuite, l'acte se termine justement par la demande d'Henriquez auprès de Don Bernard, obtenir la main de Leonora, ce qui n'est pas mis en scène dans le Quichotte, simplement c'est rapporté par la lettre que Lucinda a fait parvenir à Cardenio. Ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille est présente. Et c'est pour ça que je pense que là, on est dans une perspective un peu que, enfin, dans laquelle les conflits entre père et fils, même, ou enfants, même s'ils étaient présents dès l'adaptation 1613, ont pu peut-être être traités de façon différente dans l'écriture ou même dans la dramaturgie par l'adaptation 760, si elle existe, et en tous les cas l'adaptation de Théobald de 1727. La jeune fille est présente et elle invoque différentes raisons pour repousser cette union demandée par Henriquez, la foi qu'elle a donnée à Giulio, l'amitié de Giulio pour Henriquez, et une référence d'ailleurs aussi à l'histoire de son propre père ou de sa propre mère, qui a préféré le mariage avec son père au prétendant que voulait lui imposer sa propre famille. Mais rien n'arrive à fléchir Don Bernard, qui lui demande d'être prêt dans un délai de 2 jours, détail textuel qu'on rencontre aussi dans la lettre de Lucinda, dans Cervantes. Elle envoie sa lettre en disant « Dans 2 jours, je serai marié à Fernando ». Et là, Don Bernard lui demande d'être prêt à épouser dans un délai de 2 jours un mari qu'elle ne mérite pas, entendons Henriquez. Et la fin de l'acte est aussi une scène de comédie domestique dans la mesure où Don Bernard reçoit le père de Cardenio, Camillo, qui est furieux, évidemment, du changement de décision du père de Leonora et de l'alliance qui lui est ainsi refusée. Maudit voisin, et la fin de son intervention. Et l'acte se termine par, évidemment, l'écriture de la lettre qui en a donné la matière, c'est-à-dire la lettre que Leonora Lucinda écrit pour Giulio Cardenio, et avec une réflexion intéressante, parce qu'elle est moins présente chez Cervantes, c'est la possible discordance qu'évoque la jeune fille entre l'apparence et l'être moral, dit-elle Henriquez, a le visage qui promet vérité et honneur, mais sa conduite est vile et indigne, et il est qualifié par elle de base, Henriquez. Donc il y a comme une discordance qui s'est établie entre ce qu'il montre être et ce qu'il est vraiment. Et c'est un thème qui avait été devenu central dans la première adaptation théâtrale du Quichotte, la Commedia de Guillén de Castro, Don Quijote de la Mancha, dont les spécialistes de Guillén de Castro donnent comme date entre 1605 et 1608, et peut-être plus proche encore de 1605-1606. Exploitant cette remarque faite là par Leonora, Guillén de Castro, je l'avais montré l'année dernière, avait poussé l'argument jusqu'au point où, effectivement, cette discordance qui existait entre celui qu'il appelle El Marqués, qui est le Fernando de Cervantes, et qui est fils du duc, mais qui a une âme vile, et d'autre part, Cardenio, qui est fils de paysan dans la pièce de Guillén de Castro, mais qui a une âme noble, cette discordance était résolue à la fin de la pièce, lorsqu'il était découvert que les deux enfants avaient été échangés, c'est-à-dire que Cardenio était en fait le fils du duc et que El Marqués, Fernando, était en fait le fils de la nourrice des deux enfants et donc du mari paysan de cette nourrice. On voit que ce détail de l'inégalité des conditions peut être traité de manière différente selon les textes. Et en tous les cas, l'exploitant est transformant la condition sociale de Cardenio, qui n'est plus un jeune noble andalou, mais est un fils de paysan. Apparemment, Guillén de Castro pouvait à la fois jouer sur cette discordance et en même temps, en conformité avec une convention partagée, l'effacer à la fin de la pièce, qui restituait l'harmonie entre l'état et l'humeur, entre la condition sociale et l'âme intérieure. Et de là, le sous-titre de la pièce, tel qu'il apparaissait dans les derniers vers, « La comedia de los hijos trocados », la comédie des enfants échangés. On peut entrer dans l'acte 3 de Double Falsehood, dont les premières scènes seraient, d'après ce que j'avais montré en suivant certaines études sur le vocabulaire ou sur les formules, les formes grammaticales ou encore sur la versification, pourraient être les premières scènes, pouvant être les dernières qui auraient été écrites majoritairement ou exclusivement par Shakespeare, et ensuite la pièce basculant dans une écriture de Fletcher. Ce début de l'acte 3 suit de très près le récit de Cardenio au chapitre 23 du Quichotte. Son retour auprès de Lucinda, une fois qu'il a reçu la lettre, et avec une inversion, la lettre de Dorothea n'est pas citée dans le Quichotte alors qu'elle est lue par Violante dans Double Falsehood. À l'inverse, la lettre de Lucinda, qui est citée dans le Quichotte, est simplement évoquée dans la Double Falsehood. Donc, après cette lettre, Julio retourne auprès de Leonora. Les deux jeunes gens se rencontrent, comme Lucinda et Cardenio, alors que le mariage est imminent. Et la cérémonie est faite à l'intérieur de la maison de Lucinda et en présence, évidemment, de son père. Et ici, il y a une, si l'on suit méticuleusement le travail avec ce matériel ou ce matériau narratif des dramaturges de 1613 ou de 1727, on voit à la fois une grande fidélité en ce qui concerne le dialogue entre Leonora Lucinda et Julio Cardenio. Lorsqu'ils se rencontrent dans la nuit auprès de la grille de la maison, dit le texte de Cervantes, l'échange porte sur le fait que Leonora Lucinda dit qu'elle aime évidemment Cardenio et qu'elle a pensé à tous les moyens qui pourront empêcher le mariage. « I have forethought the means to disappoint these nuptials. » Et chez Cervantes, la manière de décevoir, d'empêcher ce mariage, c'est le fait qu'elle a caché dans son vêtement une dague avec laquelle elle dit qu'elle commettra le suicide plutôt que d'accepter l'union avec Fernando. Et Cardenio lui répond que son épée, à lui, la protégera ou bien qu'elle servira pour son propre suicide à lui, Cardenio. Donc, il y a un parallélisme dans les dialogues dans Cervantes et dans le texte de Double Falsehood. Mais où la différence radicale s'inscrit, c'est dans la scène du mariage. C'est-à-dire qu'ici, comme Guillén de Castro, ou comme une pièce française que j'avais commentée, Les Folies de Cardenio, de Pichou, si la scène de la séduction n'est pas montrée, la scène du mariage, cette scène racontée chez Cervantes, avec beaucoup de détails, elle est mise sur la scène. Alors, chez Cervantes, le point essentiel, c'est que cette scène respecte le rituel catholique du mariage. Un prêtre officie et il prononce les paroles rituelles. Je dirais, je prends la traduction de la Pléiade, l'édition de Canavaggio, je dirais, poursuivit Cardenio, qu'étant tous réunis dans la salle, le curé de la paroisse entra et leur prenant à tous deux, Fernando, Lucinda, la main pour faire ce qui, en tel cas, est requis, il vint à dire « Voulez-vous prendre Madame Lucinda, le Seigneur Don Fernando, ici présent, pour votre légitime époux, ainsi que l'ordonne notre Sainte Mère l'Église ?» Le récit de Cardenio suit « Le oui des époux et l'anneau passé au doigt de Lucinda les unissent à... non, ça c'est mon propre commentaire. Cardenio entend le oui des deux époux, y compris Lucinda, qui donc a renoncé à commettre le suicide qui aurait empêché le mariage. Ensuite, l'anneau passé au doigt de Lucinda par Fernando, et Cardenio reprend « Je l'entendis déclarer d'une voix faible et mourante, oui, je le veux. » Don Fernando répondit de même, et tandis qu'il lui passait l'anneau, ils se trouvèrent unis d'un indissoluble nœud. Donc, le mariage ici, avec l'ensemble du rituel défini par le Concile de Trente, la présence de témoins, les paroles sacramentelles énoncées par le prêtre, l'anneau passé au doigt de l'épousée par son époux, et entre paroles sacramentales et cérémonie de l'anneau, le oui de consentement à la demande du prêtre. Et le texte espagnol, si je me souviens bien, c'est dissoluble nudo, c'est-à-dire dissoluble comme opposé à soluble, mais donc pour traduire par indissoluble nœud. Et Cardenio est le témoin désespéré derrière la tapisserie où il s'est caché de cette cérémonie où, loin de se donner la mort finalement, dans une voix faible et mourante, mais néanmoins acceptant, Lucinda a dit oui à Fernando. Et la fin du récit de Cardenio est le moment où il va s'enfuir sans se faire reconnaître, et que les derniers éléments qu'il voit, c'est l'évanouissement de Lucinda qui tombe dans les bras de sa mère, et d'autre part, Fernando lisant, comme dit le texte de Cervantes, d'un air songeur, un billet qui est tombé du sein ou du vêtement de Lucinda. Et le récit s'arrête là, et ensuite Cardenio raconte ce que les lecteurs du Quichotte savent déjà lorsqu'ils sont arrivés au chapitre 23, c'est-à-dire le fait que Cardenio, quittant la ville, s'est réfugié par désespoir dans la Sierra Morena, où il joue le rôle d'un homme sauvage et où il alterne les moments de raison avec des moments d'extravagance et de la perte de son jugement. Et pour en savoir plus, le lecteur doit attendre le chapitre 28, lorsque Dorothea, elle, n'était pas présente, évidemment, à la cérémonie du mariage de Lucinda et Fernando, mais est allée à la ville pour en savoir plus sur cette nouvelle où on lui avait énoncé que Fernando avait épousé dans cette ville una hermosissima doncella. Et elle ajoute ce qu'elle a appris, c'est-à-dire que le billet qui était tombé du vêtement de Lucinda indiquait qu'elle, Lucinda, disait qu'elle ne pouvait pas être l'épouse de Fernando puisqu'elle l'était déjà de Cardenio, et que lisant ça, Fernando avait voulu frapper la jeune femme avec le poignard que l'on avait trouvé sur elle, et puis qu'empêché de le faire, il avait quitté brusquement la ville. Donc un départ avant la consommation du mariage par Fernando, et Lucinda elle-même, devenue introuvable, avait abandonné la maison paternelle. Alors on voit que cette matière décrite par Cervantes ne pouvait pas ne pas poser problème à des adaptations théâtrales du XVIIe ou du XVIIIe siècle. On voit que la tension fondamentale dans le Quichotte, elle vient du fait que le mariage qui est célébré dans la maison de Lucinda, en pleine conformité avec le rituel catholique et avec le consentement, les oui des époux, est en fait un mariage qui, pour les deux époux, serait déjà un second mariage, puisque les promesses les ont unis préalablement à un autre époux, Lucinda, qui dit être la femme de Cardenio, et Fernando, qui a promis, donc, à donner l'union de mariage à Dorothea. Et Dorothea rappelle d'ailleurs qu'elle n'a cédé à Fernando qu'après les serments. C'était le texte que j'ai cité tout à l'heure, mais auquel on peut revenir pour voir les mots utilisés par Cervantes. « Don Fernando se saisit d'une image qui se trouvait dans ma chambre et l'a pris pour témoin de nos épousailles, nuestro desposorio. » Et avec les mots les plus efficaces et les plus extraordinaires, il me donna sa parole d'être mon mari, ser mi marido. Et donc, pour Dorothea, l'union célébrée entre Fernando et Lucinda est pour celui-ci un second mariage, dont le départ brutal de Fernando puis la fuite de Lucinda ont empêché la consommation, ce qui lui donne, il n'y a pas eu d'acte de chair, ce qui lui donne une raison pour garder espoir dans la possible annulation de cette seconde union, puisque, dit-elle, il se pourrait que le ciel eût mis quelque empêchement à ce second mariage. Et l'empêchement du ciel, c'est évidemment qu'il n'a pas été consommé charnellement. Et c'est cette même puissance de la parole donnée qui, suffisante pour que le mariage soit reconnu et consacré, qui a fait affirmer à Lucinda qu'elle était déjà l'épouse de Cardenio et que donc elle ne pouvait pas épouser Fernando, même si, après avoir écrit ce billet, elle a donné, par la présence et la pression de la famille, un oui de réponse aux paroles sacramentelles du prêtre. C'est ce qu'a appris finalement Dorothea, toute cette histoire, lorsqu'elle est venue à la ville pour en savoir plus sur ce mariage de Fernando et de Lucinda. Et le témoin qui lui parle lui dit que, il me dit que la nuit où Don Fernando avait épousé Lucinda, celle-ci, après lui avoir donné le oui, était tombée soudain évanouie et que son époux, Fernando, s'étant approché d'elle pour la dégrafer et lui donner de l'air, avait trouvé un papier écrit de la même main de Lucinda où elle disait et déclarait ne pouvoir être l'épouse de Don Fernando parce qu'elle l'était déjà de Cardenio. Declaraba que ella no podía ser esposa de Don Fernando porque lo era de Cardenio. Et la restauration dans le Quichotte des premières unions où le sacrement est dans la promesse réciproque, sans cérémonie, sans présence ecclésiastique, sans accord des pères, mais selon une définition traditionnelle du mariage, cette restauration des premières unions suppose que soit reconnu le primat de la parole donnée sur le rituel religieux, suppose qu'un mariage qui n'a pas été consommé entre Fernando et Lucinda puisse être annulé au profit d'une première union qui, au moins dans un cas, celui de Fernando et de Dorothea, a été charnellement réalisée. Et c'est ce que répètent les Dorothea qui, lorsque les couples se retrouvent, se jettent aux pieds de Fernando et lui dit « Que penses-tu faire, ô mon unique refuge, en ces moments si critiques et si imprévus ? Tu as ton épouse à tes pieds, Dorothea aux pieds de Fernando, et celle que tu voudrais avoir à toi se trouve dans les bras de son mari. » C'est-à-dire que Lucinda, dans cette scène de rencontre finale dans l'auberge, avec, enfin pas finale, mais finale pour cette partie de l'histoire, avec Cardenio. « Tu tienes a tus pies a tu esposa, y la que quieres que lo sea. » Celle que tu veux qu'il le soit, comme si elle annulait, elle, le mariage qui a été pourtant célébré. Está en los brazos de su marido, c'est-à-dire de son vrai mari, Cardenio, et pas toi, Fernando. Et Fernando entend ses raisons, revient à Dorothea, revient à sa promesse, et finalement rend Lucinda à Cardenio. Mais ce qui est intéressant dans le Quichotte, c'est qu'on n'en dit pas plus sur comment pourra être annulée l'union qui a été célébrée dans la maison des parents de Lucinda, qui certes n'a pas été consommée, mais qui est un mariage conforme au rituel catholique, et comment le retour aux premières unions qui, elles, s'étaient nouées sans célébration, uniquement par l'échange de promesses qui fait sacrement, pourront être restaurées aux yeux de l'autorité, en particulier l'autorité ecclésiastique. Alors, toute cette matière était sûrement embarrassante pour les adaptateurs, que ce soit Fletcher et Shakespeare en 1613 ou Théobald en 1627. Pour eux, il fallait éviter la question, éviter le problème. Et comment le faire ? C'était en réécrivant la scène du mariage de Lucinda et Fernando de manière à ce que ne soit prononcée aucune parole sacramentelle et aucun consentement des époux. C'est ainsi qu'après après un dialogue où Leonora tente une dernière fois de convaincre Enriquez de ne pas l'épouser en lui disant « Tu épouses mon corps, mais pas mon cœur, mon Seigneur. Aucune part de mon affection. You wed my body, not my heart, my Lord. » Et réaffirmant dans une très jolie formule, très concentrée, « Julio's love is Lord Enriquez's wife. » L'amour de Julio est la femme du Seigneur Enriquez. Donc après cet ultime échange qu'il ne fait pas céder Enriquez, et au moment où le père de Leonora va donner la main de sa fille au fils du duc, « Give me your hand, donne-moi ta main. My honored lord, receive my daughter of me. » Monseigneur, recevez ma fille de moi. C'est à ce moment-là que Julio, qui chez Cervantes reste dissimulé jusqu'à la fin de la scène et avant de s'enfuir, sort, dans le cas de Double Falsehood, derrière la tapisserie, the Arras, puisque Arras était le lieu où on fait des tapisseries, elle devient l'équivalent de tapisserie dans l'anglais du XVIIe, et dénonce le tort que lui fait Enriquez, justifiant ainsi qu'il lui a désobéi en quittant la cour sans son ordre, défie Enriquez en duel. Enriquez, à ce moment-là, appelle ses serviteurs pour faire traîner hors de la maison Julio. La didascalie indique « Julio is seized and dragged out by the servants ». Il est saisi, tiré dehors, traîné dehors par les serviteurs, au moment où Leonora tombe en pamoison et s'évanouit. C'est sur la scène, Enriquez rencontre le billet dans lequel elle dit son intention de se faire violence. Le père découvre la dague qu'elle avait cachée dans son vêtement. Et le point important est que le père, qui est en quelque sorte dans ce cas-là le maître de des cérémonies, dit que le mariage doit être remis par un forced delay, par un délai obligé, jusqu'à ce que tout ce tumulte soit apaisé, et dit-il, jusqu'à ce que Leonora se soit détachée de cette passion déraisonnable qu'elle a pour Giulio et vienne à la raison du père, c'est-à-dire le mariage avec Enriquez. Et il ordonne ainsi, c'est un petit détail, mais qui est capital pour la différence entre la scène chez Cervantes et la scène sur le théâtre, il indique « Let the priest wait », laissez le prêtre attendre. Et effectivement, un prêtre est présent sur la scène, c'est ce qu'indique la liste des personnages lorsqu'ils entrent dans la hall pour le mariage, Enriquez, Don Bernard et Churchman. Mais ce prêtre n'a eu aucun rôle avant l'interruption de la cérémonie par Julio, sortant, bondissant de derrière sa tapisserie, et donc il n'a pas officié, et donc du coup, Enriquez et Leonora ne sont pas mari et femme. Du coup, il est beaucoup plus facile, dans le dénouement, de restaurer les premières unions en forme de promesses qui vont devenir mariage, puisque, dans ce cas-là, que ni Fernando Enriquez, ni Lucinda Leonora n'ont été mariés. L'échange des promesses va conduire à une union que le duc va présider ou va organiser. On voit donc qu'il y a une transformation très profonde de la signification de la scène du mariage, et cette difficulté n'avait pas échappé avant Fletcher et Shakespeare, avant Théobald, à Guillaume de Castro, qui lui aussi, dans un autre contexte, qui est contemporain de celui de Cervantes. Ici, on ne peut pas évoquer une différence des temps, mais simplement peut-être une différence de ce qu'il est possible d'écrire, de ce qu'il est possible de montrer sur la scène. Guillén de Castro, lui aussi, avait évité le problème, d'une part parce que dans la cérémonie du mariage, il n'y a aucun prêtre présent, c'est uniquement le père de Lucinda qui donne sa main au marquis, au marquès. Aucune parole rituelle n'est prononcée avant le départ du marquis, après le conflit qu'il oppose à Teodoro, qui dans la pièce de Guillén de Castro est le nom du père de Lucinda. Et d'autre part, donc, affaiblir la valeur sacramentelle du mariage, puisqu'il n'a pas été consacré selon les paroles rituelles établies par le Concile de Trente. Premier élément. Le deuxième élément est d'affaiblir la valeur sacramentelle des paroles de présent, puisqu'effectivement, Fernando a promis le mariage à Dorothea pour pouvoir la séduire, mais à aucun moment dans la pièce, cette promesse apparaît comme investie d'une force sacramentelle. Jamais Dorothea, dans la pièce de Guillén de Castro, trahie par Fernando, ou bien Lucinda, qui a été promise contre son gré à un homme qu'elle n'aime pas, n'invoque dans la Commedia la promesse qu'elles ont faite ou qui leur a été faite comme un premier mariage. Absolument jamais. Il y a donc une double déflation, la déflation de la scène du mariage qui n'est pas conforme à la dimension sacramentelle imposée par le Concile de Trente, et une déflation des promesses entre les jeunes gens qui n'est pas considérée dans la pièce de Guillén de Castro, comme elle l'est chez Cervantes, comme impliquant déjà l'union, le mariage. Prudence double qui rend plus facile dans Guillén de Castro le dénouement de la pièce, sans la nécessité de cette question ouverte de qui et comment va être annulé un mariage qui a été célébré par un prêtre catholique, et finalement qui surmonte toute contradiction entre les paroles échangées entre les amoureux et d'autre part une cérémonie qui n'est pas considérée comme unissant dans les liens du mariage. Dissoluble nudo, Fernando et Lucinda. Alors j'en viens à la fin de l'acte de la du troisième acte, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'on a pu repérer peut-être un changement dans l'écriture. Il donne toute son importance aux personnages qui ont beaucoup moins de rôle dans Cervantes, c'est-à-dire Roderick, ce fils aîné du duc qui s'entend s'informer sur la conduite de son frère, et d'autre part les deux pères, dont Bernard et Camillo, qui ont chacun perdu leur enfant. Leonora et Julio enfuient l'un et l'autre après la cérémonie d'un mariage qui, dans Dobolfo Zut, n'en fut pas un. Et les deux pères, unis par leur commune adversité, vont se réconcilier et partir chacun à la recherche de son fils ou de sa fille perdue. C'est de la même façon que Leonora se met en quête de Enriquez sous un déguisement de berger, a shepherd's habit, avec le dessein, ce qu'elle le rencontre, de tourmenter sa conscience de celui qui l'a abandonnée après l'avoir séduite, et aussi avec l'espoir que time may beg a wonder, le temps pourrait accomplir un miracle. Et c'est à partir du quatrième acte que le spectateur est introduit à ce qui, chez Cervantes, était le début de la connaissance de la nouvelle de Cardenio, c'est-à-dire les montagnes sauvages et dépeuplées qui ne sont pas nommées dans la pièce Sierra Morena, mais qui sont dans Cervantes ce lieu où se rencontrent les deux folies, celle de Don Quichotte et celle de Cardenio. Les dramaturges ont développé théâtralement certains détails du texte de Don Quichotte, et avec grande fidélité. Par exemple, la déraison de Cardenio, Giulio, qui à certains moments prend l'un des bergers pour le traître, Fernando Enriquez, qu'on rencontre au chapitre 23, ou bien dans le cas du récit de Violante du chapitre 28, la découverte par le maître des troupeaux auprès duquel Violante s'est engagé comme berger déguisé en garçon, qu'elle est en fait une femme qu'il entend posséder. Et il y a une extrême condensation du temps de l'histoire, puisque s'enchaîne presque immédiatement une tentative de viol, de violente découverte comme fille par ce maître des troupeaux, et d'autre part l'arrivée des deux frères, Roderick et Enriquez, celui-ci ayant décidé d'aller, comme chez Cervantes, capturer Leonora Lucinda, qui s'est réfugiée dans un couvent, dans la pièce anglaise, a nunnery or cloister. Dans Don Quichotte, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que soit raconté cet épisode. C'est lorsque, dans l'auberge, tous les personnages se rencontrent, que Fernando arrive avec trois cavaliers et une femme masquée et vêtue de blanc, qui est Lucinda, et où il va raconter comment il est entré dans le couvent, accompagné de ses trois amis, comment il a découvert Lucinda en conversation avec l'une des sœurs, et finalement, il l'a obligée à un départ forcé, et la jeune fille, muette et en pleurs, obligée de le suivre. Mais ceci apparaît au chapitre 36, c'est-à-dire que les éléments du récit de Cardenio, du récit de Dorothea et du récit de Fernando sont mis ensemble dans ce quatrième acte de Double Falsehood. Et il y a un détail très important qui lui a attiré l'attention des commentateurs. Comment Fernando Enriquez entre-t-il dans le couvent, et dans le cas de Double Falsehood, accompagné par son frère, Roderick? Dans Cervantes, il n'y a pas de détail particulier. Ils s'introduisent dans le couvent. Deux des chevaliers qui l'accompagnent gardent les portes et empêchent toute circulation. Et lui, avec un autre de ses amis, en quelque sorte, enlève Lucinda, la force à les suivre. Dans Double Falsehood, la feinte qu'imagine d'ailleurs Roderick est la suivante. Nous pourrons prétendre que nous transportons un corps comme s'il s'agissait de ses funérailles. Et en arrivant tard au couvent, nous solliciterons la permission d'y faire entrer le cercueil pour la nuit. Et il ajoute ce que la charité et la coutume de la maison ne refusent pas. Et très opportunément passe un corbillard ou une voiture mortuaire avec un cercueil vide, au moment où Roderick dit cela, peut-être l'a d'ailleurs organisé, et Enriquez pourra se dissimuler dans ce cercueil et entrer ainsi, sous le prétexte de l'accueil pour une nuit d'un convoi funèbre, dans le couvent. Et ça, c'est ce qu'invente Roderick, et qui, Théobald, ou plus vraisemblablement Fletcher et Shakespeare. Et on voit qu'il y a là une double consonance de cette histoire qui n'apparaît pas du tout dans Cervantes, qui est une histoire d'introduire quelqu'un qui contrefait un mort, d'introduire un cercueil vide, de donner une dimension macabre à ce stratagème d'enlèvement de Lucinda Leonora. Et la double consonance peut être soit une consonance historique, dans la mesure où, comme on l'a dit souvent, les trois pièces, Henri VIII, Cardenio, les deux nobles cousins, sont écrites pour ce moment de deuil et de mariage à la cour, la mort du prince Henri à la fin de 1612, et son corps exposé selon le rituel des deux corps du roi dans Westminster, et d'autre part le mariage d'Élisabeth, la fille de Jacques Ier, avec le prince du Palatinat. Et donc, il y a un premier, une consonance ici entre ce cercueil vide de la pièce et d'autre part les rites funèbres qui entourent le cercueil habité du prince Henri. Et il y a une deuxième consonance qui pourrait être, elle, intertextuelle. J'avais été très frappé, et les commentateurs aussi, par le fait que les deux nobles cousins s'ouvrent par une obsession pour les cadavres laissés sans sépulture ou sans cercueil, comme une inversion. C'est-à-dire ici, on aurait un cercueil sans cadavre, et dans To Noble Kinsmen, on a des cadavres sans cercueil. Ce sont les corps des rois d'Argolide laissés morts sous les murs de Thèbes après l'expédition malheureuse des Sept contre Thèbes, et les deux nobles cousins s'ouvrent par les pleurs et les lamentations des veuves de ces rois morts dont les cadavres pourrissent, dévorés par les oiseaux, sous les murs de Thèbes, et demandent à Thésée, prince de duc d'Athènes, d'aller défier Créon, roi de Thèbes, mais avec comme motif essentiel de donner une sépulture à ces corps laissés à l'abandon. Donc il y a cette connotation funèbre qui peut être là vue comme un stratagème, mais dont plaisant, mais dont les consonances sont puissantes sur le rapport au corps et à la sépulture, l'omniprésence de la référence à la mort, apparut toujours un détail particulier, curieux, puisque absolument sans origine dans le texte de Cervantes. À la fin du quatrième acte, il y a une scène où, là encore, deux éléments très séparés dans le Don Quichotte sont mis l'un en rapport direct avec l'autre. D'une part, la plainte de Dorothea, cette plainte que l'on entend dans le Quichotte au début du chapitre 28, lorsque le curé, le barbier, qui ont rencontré Cardenio, entend une voix se lamenter sur son sort, et qui est la voix de Dorothea. Et c'est le moment d'ailleurs où il la découvre comme jeune fille, puisqu'elle se lave à la rivière et ses cheveux blonds se défondent sous son bonnet de berger. Et dans la pièce, il y a une reprise de cela avec une transposition de genre, puisque c'est un chant que chante l'actrice qui joue la comédienne, qui joue Violante, un chant adressé à Echo, qui doit écouter la jeune fille perdue et dire à l'amant qui a trahi quel chagrin est le sien. Et c'est une des parties musicales qui est introduite dans Double Falsehood avec un chant donné à Dorothea et toujours la discussion de savoir si ce chant à Echo est dans le texte de 1613 ou si c'est une invention, une création dans ce cas-là de Théobald. Et d'autre part, après cette plainte, il y a l'immédiateté de la reconnaissance entre Julio Cardenio et Violante Dorothea, qui, cette reconnaissance réciproque, est aussi séparée en deux temps chez Cervantes. D'abord, Cardenio reconnaît Dorothea, et plus tard, Dorothea va reconnaître Cardenio, qui ne s'est pas fait connaître immédiatement. Et la fin de l'acte aussi est en distance avec Cervantes, parce que Violante promet à Giulio de lui dire quelque chose à propos de Leonora qui pourra le réconforter, c'est-à-dire de lui dire que le mariage n'a pas été, encore moins que chez Cervantes, consommé. Il n'a été ni consommé ni célébré. Mais Giulio déclare que, bien sûr, il va la suivre, mais que le réconfort est impossible et que les deux jeunes gens ne pourront partager que leurs blessures et leurs peines. Et on a un ton très différent de l'espérance ou de la résolution du Cardenio de Cervantes, qui est bien décidé à retrouver avec Dorothea lo que es nuestro, c'est-à-dire celui ou celle qui est leur conjoint, Lucinda et Fernando. Le dénouement de la pièce au cinquième acte est identique à celui de Cervantes. Les premières unions se reconstituent et se reforment, mais il emprunte des chemins tout à fait différents. D'abord, une première différence, c'est que lorsque Fernando et Lucinda arrivent dans l'auberge, une fois que Fernando l'a saisi, l'a enlevé, ils n'ont jamais échangé une seule parole. Lucinda est en pleurs et muette. Alors que sur la scène, un dialogue s'instaure entre eux. Enriquez, bonne foi ou nouvelle ruse, dit à Leonora qu'il n'est plus mu seulement par des désirs impurs, mais que la flamme d'une vestale habite maintenant son cœur. Lucinda ne croit pas à cette déclaration de passion amoureuse profonde et pure. Et elle dit que cela ne fait que renforcer sa haine, deeper hate, pour ce Henriquez qui a été le meurtrier de ses désirs. That, like a villain, murders my desires. Et ensuite, alors que chez... Alors, c'est une différence absolument essentielle, là. Chez Cervantes, les repentirs et les pardons qui permettent le retour au premier mariage se situent uniquement dans les échanges entre les jeunes gens. Comme je le disais, Fernando arrive dans l'auberge avec trois chevaliers, ils sont tous masqués de noir. Lucinda arrive vêtue de blanc, muette, en pleurs et masquée. Et les personnages se reconnaissent. Ils se reconnaissent d'ailleurs par leur voix. Cardenio est dans une pièce à côté et il entend la voix de Lucinda et il la reconnaît. Et Lucinda reconnaît la voix de Cardenio. Ensuite, pour empêcher Lucinda d'entrer dans la chambre où est Cardenio, l'un des gentilshommes perd son masque. C'est Fernando que reconnaît Dorothea, qui tombe évanouie dans les bras du barbier et est reconnue à son tour par Fernando. Cardenio sort de la pièce. Et on a ici un autre effet théâtral dans le Quichotte, non pas les dialogues avec une succession rapide d'échanges, non pas ces monologues intérieurs, mais une sorte de tableau vivant dans lequel les personnages muets se reconnaissent ou se regardent les uns les autres, un long silence, et ensuite vient la scène des reconnaissances, des pardons, des repentirs, des unions restaurées. Et Cervantes l'a construit comme une série de 9 tirades en style direct qu'un personnage adresse à un autre, Lucinda à Fernando, lui demandant de lui rendre son véritable époux ou de la tuer. Ensuite, Dorothea à Fernando, qui lui rappelle ses paroles d'engagement, lui demande d'éviter son déshonneur à elle et lui déclare un amour que rien n'a altéré, pas même la trahison. Ensuite, Fernando qui s'avoue vaincu, puis les serments entre Cardenio et Lucinda, et un dernier accès de colère de Fernando qui est apaisé par Dorothea, qui lui demande avec le curé de soumettre son cœur à la raison. Et c'est à ce moment-là que Fernando, comme frappé par la grâce, Dorothea étant agenouillée à ses pieds, lui prie de ne pas lui faire reproche de sa conduite passée, reconnaît que le ciel a voulu, je cite, « qu'en voyant la foi avec laquelle vous m'aimez, vous, Dorothea, je sache vous estimer autant que vous en êtes digne. » Et au milieu des larmes de tous, y compris les trois robustes chevaliers qui avaient accompagné Fernando, toutes les promesses échangées deviennent réalité et les couples sont reformés. Alors, je vais terminer avec le fait de qu'est-ce qui se passe dans la Double Falsehood avec cela. C'est le point clé, l'intervention d'une autorité. D'abord, l'autorité de Roderick, le frère aîné, qui redresse les torts qu'a fait son frère, et ensuite, l'autorité du duc. C'est déjà un trait chez Guillén de Castro. C'est-à-dire que les adaptations théâtrales introduisent le pouvoir souverain justicier et arbitre du roi. Et le duc devient le témoin ou le garant des mariages de ceux qui avaient échangé promesses de présent et engagement de foi. C'est un happy end qui arrive après toute une série de... tromperies sur le théâtre qui sont plutôt des jeux ou des effets de théâtre, des pièges tendus par Roderick aux autres personnages et en particulier à son frère, puisqu'ils reviennent avec Leonora et Henriquez, avec Leonora et Henriquez arrive Roderick, tous retrouvent leur père, dont Bernard retrouve sa fille, Leonora, et le duc retrouve ses deux fils, Roderick et Henriquez. Et il y a un premier piège qui est tendu par Roderic, qui fait accuser par Violante déguisé en page son frère d'avoir séparé ce jeune garçon de son père et ensuite de l'avoir abandonné. Alors, Enriquez dit que c'est absolument faux. Et pour le confondre, Roderic produit la lettre que Enriquez avait adressée à Violante et que Violante avait gardée, puisqu'elle joue ce rôle du page qui aurait été disgracié. Et il y a une réplique tout à fait étonnante. Je ne sais pas si Théobald l'avait contrôlé ou si c'est un lapsus prémonitoire. Lorsque sort cette lettre qui doit l'accuser, Enriquez déclare « This forgery confounds me ». Cette falsification, ce faux me confond, et c'est pas évidemment sans écho ironique par rapport ou prémonitoire par rapport au contexte de réception de la pièce où une des tentations de Pope est d'avoir accusé Théobald d'avoir lui-même écrit une forgery, une falsification. Du coup, Enriquez doit accepter l'évidence que cette lettre est bien de lui, mais il continue à dire qu'il n'entend rien à cette histoire du page qu'il aurait arraché à sa famille et ensuite abandonné dans la disgrâce. Alors, deuxième piège, Roderick dit qu'il va appeler un témoin pour ça, et le témoin qu'il fait entrer est Violante de nouveau, mais cette fois qui a abandonné ses habits masculins et qui apparaît en femme pour accuser Enriquez de l'avoir abandonné. Et là, le dialogue est parallèle et avec certains écarts par rapport à Cervantes, dans la mesure où elle lui demande, comme dans Cervantes, de respecter sinon son amour, mais au moins son honneur, et finalement de respecter la parole qu'il lui avait donnée avant de la connaître au sens biblique et charnel. Du coup, Enriquez, lui, plus brutalement encore que chez Cervantes, revient à son premier amour pour la jeune fille et lui demande qu'elle le pardonne et que son père, le duc, consente à leur union. Et accablé par le chagrin d'avoir trahi Giulio, il dit qu'il ne sera jamais en paix tant qu'il n'aura pas pu rendre ses devoirs à la tombe de Giulio, que tout le monde croit mort. Et là, troisième coup de théâtre, Giulio, qui lui-même avait été présent mais déguisé, se révèle. On voit donc que le point intéressant, au-delà de cette série peut-être un peu lourde de déguisements, celui de Violante et celui de Giulio, c'est un point tout à fait essentiel. C'est d'une part de clore là la nouvelle, alors que vous vous souvenez peut-être que dans le Quichotte, c'est un moment où la nouvelle est certes achevée en termes de reconstitution des unions, mais que les personnages ne vont pas quitter la historia de Cervantes, puisque tous décident de poursuivre leurs aventures et d'accompagner Don Quichotte sur le chemin du retour. Ce n'est que quelques chapitres plus tard qu'ils se séparent et que tous les personnages de la nouvelle quittent abandonnent leur présence dans l'histoire, alors qu'évidemment la pièce Double Falsehood va s'achever avec ses unions restaurées desquelles le duc se dit le garant. Et d'autre part, seconde différence fondamentale, les derniers mots de la pièce sont donnés au duc, qui incarne cette fonction à la fois très à la Elias d'arbitre des tensions, de résolution des conflits entre les jeunes gens, entre les pères. Donc il y a une fonction qui était déjà celle du duc chez Guillaume de Castro, de la fonction de rendre la justice, de réparer les torts, d'être celui qui résout les conflits du particulier grâce à l'autorité du public. Et il y a donc cette dimension-là. Et dans ce cas-là, il répare les torts faits à Julio en lui disant de venir le rejoindre à la cour. Il répare les torts faits à Violante avec une nuance, disant « je ne peux pas, puisque l'origine est roturière et basse, de Dorothea, transformer votre condition ou ta condition. » Mais que néanmoins, elle pourra l'appeler père. Et donc, d'une certaine manière, il l'accepte dans une sorte de parenté. Donc, il y a ce rôle-là du prince comme redresseur des torts, comme exerçant la justice et comme résolvant par l'autorité publique les conflits du privé. Et finalement, comme faisant advenir ce qui était le désir de la Providence. Les derniers mots du duc dans la pièce sont que reconnaître que au-dessus de notre pouvoir, la Providence gouverne tout. Above our power rules all. Tout, c'est tout. Et évidemment, on retrouverait là une parenté dans ce dénouement de Double Falsehood très proche de ce qui était le rôle de la Providence dans une pièce comme Les deux nobles cousins, dans lesquelles, au-dessus du pouvoir du prince, au-dessus du pouvoir de Thésée, duc d'Athènes, il y a les décrets et on le verra peut-être cet après-midi, les décrets obscurs, complexes, contradictoires du destin, de la providence, de la fortune. Et on ne peut pas ne pas penser que si ce trait-là, comme on peut le supposer, qui est présent dans Double Falsehood, comme il l'était dans Don Quixote de la Mancha de Guillén de Castro au début pour les deux pièces du XVIIe siècle. On peut voir là une sorte de lieu commun, mais un lieu commun théâtralisé dans ces pièces écrites en collaboration par Fletcher ou Shakespeare. La Providence est plus puissante que tout pouvoir, quel qu'il soit, et les desseins souvent difficiles à déchiffrer de la fortune, comme le dit la fin de Noble Falsehood, fait de nous, les humains, ses enfants. Bien, nous pouvons donc, il est temps, on en rester là, pas de cours et séminaires la semaine prochaine, et un dénouement dans les séances du jeudi 11 et du jeudi 18, et en vous rappelant que le mercredi 10 à 11h, nous pourrons entendre la seconde conférence de Fernando Bausa. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.